parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour, je suis Thibaut Thorier de Labrou et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Allez, c'est parti.
Et moi, c'est Adjan, chez Lille, et c'est le premier épisode de Super Daily. Et autant vous dire qu'on est super, super heureux de démarrer ce podcast. Le but, comme son nom l'indique, c'est d'en faire un tous les jours, que tous les jours vous ayez un petit décryptage de l'actu social media. Et on est super heureux, non, Thibaut, de démarrer ça déjà.
Alors ouais, c'est un gros challenge pour nous. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas très rapidement à nous faire remonter vos premières impressions. Évidemment, on va faire en sorte de s'améliorer. Je pense que le premier va être un peu hésitant, puis petit à petit, on va prendre nos marques.
Oui, mais en même temps, le premier, c'est toujours celui où on prend le plus de plaisir, parce que c'est le premier.
Exactement.
Et de quoi on va parler aujourd'hui, Thibaut, du coup?
Alors, aujourd'hui, déjà, on est champion du monde, Jean.
Ça, c'est vrai, on est champion du monde! Voilà, là, c'est saturé partout dans vos casques, mais bon, c'est pas grave, on est heureux.
Donc, on est champion du monde, et en fait, je me demandais si je devais faire un petit peu de provocation, de savoir s'il n'y avait pas un deuxième champion du monde, et si finalement, le grand champion de cette finale et de cette Coupe du Monde 2018, c'était pas Instagram.
Ah ouais, mais pourquoi ça, Thibaut?
Bah écoute, je pense que comme moi, tu as suivi un petit peu de près les réseaux sociaux, la télé, et cette finale, et les coulisses. Et on a vu vraiment sur cette Coupe du Monde, je trouve quelque chose d'un peu fou se produire. Et je pense qu'il y aura un avant et un après Coupe du Monde.
Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il faudra vérifier, mais je pense que c'est la première grande compétition internationale comme ça, dans le foot en tout cas. Euro ou Coupe du Monde, où dès la fin du match, sur la pelouse, pendant que les joueurs attendaient, ils venaient de gagner, ils étaient en train d'attendre que le protocole se mette en place. Il y en a quelques-uns, et notamment deux auxquels je pense qui ont fait ça pendant toute la Coupe du Monde, qui sont remplaçants, c'est Benjamin Mendy et Presnel Kimpembe. Clairement, c'est les community managers pour leur propre compte de l'équipe de France. C'est-à-dire que Benjamin Mendy, le coup de sifflet final a retenti, il a couru sur la pelouse et après il était smartphone en main et c'était parti. C'était story sur story en direct, direct, direct en story.
Ouais, je trouve que c'est le truc un peu fou de cette Coupe du Monde. Il y a eu comme ça, effectivement, il y a eu les community managers officiels de l'équipe. On a vu évidemment des Pogba en première ligne, Mbappé pas mal aussi. C'est assez fou ce qui s'est produit. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Et surtout, j'ai presque l'impression que ça annonce la mort de Twitter, en fait. Parce que jusqu'à présent, Twitter, c'était la plateforme d'actualité en direct. Et là, pendant cette Coupe du Monde, Instagram s'est transformé comme l'outil du direct. C'est là où ça se passait, et avec une forme d'authenticité vraiment folle, quoi. C'est-à-dire, on avait l'impression d'être en coulisses avec les joueurs, avec les sportifs. Et je crois que c'est assez unique, et encore une fois, ça prouve la bonne santé et la puissance actuellement d'Instagram, quoi.
Je suis totalement d'accord. Je mettrai un petit bémol sur le rapport avec Twitter, où pour moi, Twitter va encore servir pour les journalistes, pour pouvoir tweeter de l'info en direct. Les journalistes continueront, je pense, à utiliser aussi Twitter. Et moi, en tant que consommateur Twitter, par exemple, sur le foot, je suis beaucoup de journalistes et c'est eux qui vont me donner les informations en premier sur Twitter en général. Mais en tout cas, pour vivre l'intérieur du groupe, les coulisses, c'est sûr que là, on a fait un pas énorme en avant et c'est bien simple. Hier soir sur TF1, on avait un reportage qui est un peu l'équivalent des Yeux dans les Bleus de 98 sur l'épopée de cette année, sur 2018. Pratiquement tout ce qu'il y avait dans tout ce qui s'est passé dans le reportage, c'est des choses qu'on connaissait déjà. Alors, soit par la presse classique, mais surtout parce qu'il y avait effectivement Benjamin Mendy. Je pense beaucoup à lui parce qu'il a fait énormément de direct et de story pour la Coupe du Monde, mais ils en ont tous un peu fait. Et en fait, il y a une désacralisation des joueurs. C'est-à-dire que tu les connais avant même de les voir gagner la Coupe du Monde. Tu les connaissais dans leur vie réelle, dans leur quotidien, dans leurs blagues, dans les petites blagues récurrentes au sein du groupe équipe de France. Et ça, c'est complètement nouveau. Parce que les yeux dans les bleus 98, ça marche aussi bien. C'est aussi parce que les joueurs, t'apprends à les connaître dans ce reportage. T'apprends à voir l'envers du décor, alors que là, tu le connaissais avant.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est le truc vraiment dingue, c'est qu'on a eu l'impression quasiment, pendant cette Coupe du Monde, de la faire un peu avec eux dans les vestiaires. Et on a beaucoup parlé, entre nous, hein, de la digitalisation de la fédé de foot et le fait qu'il y avait un beau plan, une belle campagne digitale qui était lancée sur cette Coupe du Monde. Mais je crois que la vraie campagne digitale, c'est finalement les joueurs qui l'ont fait eux-mêmes. Et c'est assez rigolo parce que bien souvent, on résume ces joueurs de foot à des joueurs de foot. Et je crois qu'en fait, ils sont bien plus disciplinés que ça. Ils sont des excellents communicants. Je pense même que ça fait partie de la fonction. Tu disais, un garçon comme Kimpembe était clairement l'un des community managers du groupe, et je trouve que c'est exactement ça avec la discipline du community manager, c'est-à-dire qu'il savait très bien ce qui était intéressant à diffuser sur la plateforme, sur Instagram, les coulisses, le vestiaire, etc. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas vu, quoi. Et il savait très bien où était la limite, et finalement tu sens déjà qu'ils ont une sorte de discipline, comme un community manager sait jusqu'où il peut travailler sa marque. Et là, la marque, c'était la marque Équipe de France. Et puis après, on pourra même parler ensemble d'ailleurs de la marque du joueur en lui-même, hein, parce que les joueurs sont des marques.
Je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire que là, bien sûr que ça joue pour l'équipe de France parce que c'est pendant la Coupe du Monde et qu'en plus, on va la gagner. Donc forcément, toutes ces images-là qui font, elles ont deux fois plus d'impact et de poids. Mais je pense que c'est avant tout pour eux qu'ils le font. Et en plus, je ne sais pas s'ils le font vraiment, tu vois, la limite, je ne sais pas s'ils la trouvent vraiment consciemment ou si ce n'est pas juste naturel. Parce que jusqu'à maintenant, surtout dans le foot, il y a quand même tout un truc autour du secret de vestiaire. Il ne faut pas que ça sorte, ce qui se passe dans le groupe, ça reste dans le groupe, etc. Et du coup, je pense que même s'ils sont jeunes et qu'ils ont grandi avec ces réseaux et qu'ils ont envie de tout filmer, etc., je pense qu'ils y vont quand même un peu avec des pincettes sur certains sujets. Genre, non, ça, je sais que je ne peux pas le diffuser. Ça, je sais que je ne peux pas sortir mon téléphone maintenant pour filmer, sinon je vais me faire descendre par les anciens ou par le reste du groupe. Donc il y a un côté, je pense, presque inconscient, naturel de là où est la limite et de comment ils vont bosser sur ces réseaux-là, leur image.
Ouais, ça m'a vraiment fasciné, hein, ça, cette espèce de transition qui était en train de se produire. J'ai pas pu m'empêcher, en voyant l'autre jour, je crois que c'était sur TF1, hein, sortie de match, tu avais des inserts de story Instagram sur TF1, c'est quand même... Tu vois, je parlais tout à l'heure de la mort de Twitter. Si tu regardes 2-3 ans en arrière, on avait systématiquement des inserts de tweets. Maintenant, ils ont été remplacés par des inserts de story Insta. Donc ça, je trouve que c'est une sorte de révolution qui est en train de se produire. Et ensuite, il y a un truc qui m'a vraiment fait titiller, c'est que je me souvenais à la grande époque de Canal+, etc. Tu avais une caméra, tout le monde attendait un plan de caméra, c'était le plan vestiaire, et c'était des images auxquelles tu n'avais pas accès, quoi. Et tu avais Deniso qui allait, c'était la grande époque de Deniso, et on allait chercher des images dans les vestiaires. Aujourd'hui, les images dans les vestiaires, effectivement, comme tu le disais, on les a avant tout l'été. Donc, du coup, moi, je me pose des questions sur Twitter, et puis je me pose aussi des questions sur le rôle du journaliste, mais le rôle des mass médias, des médias traditionnels, et de savoir si c'est encore eux qui sont pourvoyeurs d'images ou s'ils sont juste curateurs d'images produites par les autres, quoi.
C'est clair, là je te rejoins totalement, et je pense qu'avec cette Coupe du Monde, il y a une grosse bataille qui a été perdue, mais que ce soit par les mass médias, mais aussi par la fédération, parce que même si la fédération elle a fait une belle campagne digitale, normalement, si elle avait vissé sa communication correctement jusqu'au bout, par exemple l'attente de soulever la coupe, etc., aucun joueur n'aurait dû avoir un smartphone dans les mains. Il aurait dû avoir que l'équipe de France qui diffuse des images et la télévision qui diffuse des images de ce qui se passe sur le terrain. Et le fait que les joueurs puissent avoir des smartphones pratiquement partout avec eux, même à ce moment-là, qui est un moment quand même qui est censé être sacralisé, c'est le moment où ils vont soulever la Coupe du Monde, donc ils sont... T'es censé les voir heureux et juste s'embrasser, vivre un moment fort en émotion et soulever cette coupe. Bah là, tu vois les remplaçants, comme Benjamin Mendy et je disais comme Kimpembe, qui font des images eux-mêmes. Ça, c'est terrible pour l'équipe de France, la Fédération française, pour sa communication, pour la communication de la télé. Là où c'est génial, c'est pour les joueurs et pour les marques qui ne sont pas les marques officielles, qui peuvent apparaître dans toutes ces images de joueurs, parce que moi, je pense aussi à eux. Je pense notamment à la marque Beats. Beats, ils n'arrêtent pas de se faire... C'était déjà le cas en NBA à une époque. Ils se faisaient interdire. Ils n'avaient pas le droit, les joueurs, d'arriver avec des casques Beats pendant les matchs, etc., parce que ce n'était pas un partenaire officiel. Mais Beats, ils sont beaucoup trop malins et ils arrivent à être de partout. Et du coup, bah, ils sont dans les stories de Benjamin Mendy tout le long. Et dans les images officielles, ils ont sorti un casque exprès sans, avec du sparadrap sur le côté pour cacher la marque. Sauf qu'à la fin de la Coupe du Monde, ils ont offert un casque à Mendy exactement pareil, avec un espèce de sparadrap mais doré et avec le Beats au milieu. Et tout le monde savait que c'était un casque Beats. Et c'est clairement là que la fédération, que les grandes chaînes, elles perdent de l'influence parce que les joueurs, ils peuvent créer l'image eux-mêmes et du coup vendre, se vendre à des marques eux-mêmes en fait.
Ouais, en fait, ça, c'est rigolo parce que la Fédé aimerait être une marque, hein, la Fédé de foot. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont fait un gros merchandising pendant la Coupe du Monde qui est plutôt réussi d'ailleurs. Ils se sont lancés un peu tardivement sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube où ils ont sorti. Mais en fait, ils sont déjà à la bourre, quoi. Et en face, t'as des mecs comme Pogba. Pogba, c'est 26,3 millions d'abonnés sur Insta. Donc, autant te dire que le mec, c'est plus qu'un community manager, quoi. C'est une marque comme au niveau de Nike, hein, c'est impressionnant. Je pense même, t'es plus calé que moi pour les chiffres de transfert, mais je crois que c'est 106 millions, quelque chose comme ça, son transfert à Manchester United. Et je sais qu'à l'époque, il avait été quand même pas mal dit. Qu'ils achetaient une marque, ils achetaient la marque Pogba, et ils l'achetaient aussi, la valeur d'une marque, elle tient aussi à une marque comme Pogba, elle tient aussi à ses 26,3 millions de followers. Donc, ce que je trouve vachement marrant, c'est que tu prends les remplaçants de l'équipe de France, c'est presque eux qui ont été les plus actifs sur les réseaux sociaux, et tu ne peux pas t'empêcher de te poser la question, hormis, je pense, la sincère authenticité de ce qu'ils produisaient, mais l'espèce de win-win où finalement, ils ont capitalisé sur cette Coupe du Monde sans pour autant en être acteurs sur le terrain. Ils ont décidé de prendre un autre rôle qui était celui d'acteur à l'image, et là-dessus, franchement, c'est assez brillant.
Là où je pense que ça va beaucoup se jouer pour eux, c'est aussi dans la suite de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que là, ils ont capitalisé grâce à toutes les images qu'ils ont faites. Ils ont dû développer, je pense, j'ai pas fait gaffe aux chiffres, mais je pense qu'ils ont développé encore plus leur réseau en filmant comme ça l'intérieur de la Coupe du Monde. Sachant qu'un mec comme Benjamin Mendy, par exemple, il joue en Angleterre, à Manchester City. Il a été blessé longuement cette année, donc il avait déjà tendance à faire ça en fait à Manchester City, à beaucoup filmer l'envers du décor et tout. Donc lui, il a une communauté en plus anglaise et internationale, en plus de sa communauté française. Pogba, c'est pareil, il a une communauté anglaise grâce à Manchester. Aujourd'hui, ça passe aussi par ça, la valeur des joueurs. Quand on voit Cristiano Ronaldo qui signe à la Juventus, ils achètent la star pour ce qu'elle représente dans le monde. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a plus de followers et de fans Facebook que la Juventus. Donc quand ils l'achètent, ils savent qu'ils vont faire un coup marketing énorme. Et ça fait partie du prix, ça fait partie du salaire pour lequel ils le payent. C'est pour tout ça qu'ils l'achètent, c'est plus que le niveau vraiment sportif intrinsèque. Après, tu as des joueurs encore à l'ancienne, hein. Tu as N'Golo Kanté, il a Twitter, il a sûrement, je pense qu'il a Instagram, je suis pas sûr. Mais il communique, c'est sobre, c'est pas du tout le même délire, quoi.
Ouais, tu vois, tu parles de joueurs à l'ancienne, le mec a Instagram, à Twitter.
Ouais.
Donc c'est bien ce que je te dis. C'est, à mon avis, Twitter, là, est clairement ce genre d'événement montre que Twitter là, est en grosse perte de vitesse. Et ce qui faisait la force d'une plateforme comme Twitter, c'était ça. Que c'était là où tu allais pour prendre du live. C'est-à-dire, quand tu avais besoin d'une info en direct, tu allais sur Twitter. Et maintenant, j'ai l'impression, dans un registre tout à fait différent, parce que ce n'est pas le même engin, ce n'est pas le même algorithme, ce n'est pas le même moteur de recherche, etc. Mais j'ai l'impression, dans un registre totalement différent, si tu veux des images, des vestiaires de la Coupe du Monde de foot, tu les auras que sur Instagram aujourd'hui. Tu les auras ni sur Facebook, ni sur Twitter. Et on en reparlera, je pense, dans un prochain épisode du Super Daily. Mais le format story, quelle révolution, ce format story.
Oui, c'est le format qui est le plus spontané, en fait. Donc, c'est fait par un smartphone, pour un smartphone. Et c'est ce qu'il y a de plus spontané pour toucher les gens. Donc quand des joueurs l'utilisent pour se filmer sur le terrain, pour se filmer dans l'Élysée aussi. Quand je parlais de désacralisation, il y a plein d'images des joueurs avec même le président, avec Macron, qui sont filmés comme ça en direct, en story, où ils disent des conneries au président. C'est des choses qui ne pouvaient pas exister il y a quelques années en arrière. Il y avait une sacralisation de l'État. Et je pense que c'est un rapport même avec ce que représente aussi, alors là, on ne va pas non plus s'engager sur un terrain politique, mais ça représente aussi ce que cherche à véhiculer Macron dans la désacralisation de tout ça, quoi.
Ben alors là, c'est assez rigolo, parce qu'il y a quelques semaines en arrière, toi tu parles de, il y a quelques années en arrière, il y avait une sacralisation du président, mais il y a quelques semaines en arrière, Macron remettait en place un gamin, parce qu'il l'appelait Manu, et que ça avait été là aussi filmé, par des journalistes. Forcément, moi j'ai lu 2-3 petites choses là sur Macron dans pris au milieu des coulisses Instagram de en train de daber, etc. Et c'est sûr que on peut pas aussi s'empêcher de se dire ben autant la Fédé, il y a peut-être des choses qui lui ont échappé en termes de communication, autant un excellent communicant comme notre président de la République, tu te dis qu'il y a peut-être aussi un effet d'opportunisme hein, là-dessus. Et quand on est en recherche d'authenticité, quoi de mieux que d'apparaître de façon totalement spontanée, quasiment sans filtre, comme ça.
De toute façon, n'importe quel homme politique essaie de capitaliser sur une victoire comme la Coupe du Monde. Je suis pas sûr qu'il y ait un homme politique de premier plan en France qui n'est pas soit tweeté, soit délivré un message en rapport avec cette Coupe du Monde pour essayer de s'accrocher à ça. Alors Macron, lui, en plus, il est président, donc il a un peu plus de moyens que les autres. Il l'a fait de A à Z. Les joueurs, ils ont passé la soirée du lendemain à l'Élysée avec lui. Et même, ça a été mal vécu par énormément de public parce qu'il y a eu, pour l'instant, en tout cas, je pense que ça ne se fera pas. Mais il n'y a eu, pas eu les joueurs à un balcon pour brandir la coupe et il n'y a pas eu ce rapport populaire à la coupe et à l'équipe. Et ça, par contre, en termes d'image et de communication, là on sort du digital un peu, mais ça perd de l'impact aussi du digital. Parce que pour aller jusqu'au bout, après, il aurait fallu qu'il y ait cette rencontre aussi au balcon, que les joueurs prennent le micro, qu'ils parlent entre guillemets au peuple. Là, ils sont restés à l'Élysée faire la fête avec Macron et il a manqué ce côté-là.
En fait, finalement, c'est là aussi, c'est en termes d'époque, entre 98 et aujourd'hui. 98, tu as l'équipe de France au balcon et qui s'adresse en direct à la foule des Français réunis. 2018, tu as l'équipe de France qui via Instagram s'adresse à la planète entière. Donc c'est vrai qu'en termes de symboles et d'images, il n'y aura pas la jolie photo. Par contre, il y a eu quand même, je trouve, cette proximité et peut-être de façon encore plus unique. Juste pour conclure ce podcast, tu parlais de placement de produits. Moi, je trouve que peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que le plus gros placement de produits de cette Coupe du Monde en story Instagram, finalement, c'était pas Emmanuel Macron. Parce que franchement, le mec était là, placé, mais parfaitement par les joueurs. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un beau placement de produits. Donc, je sais pas, quel est ton avis là-dessus?
Ah ben, je suis totalement d'accord. Là, il a été le produit parfaitement placé au milieu de tout ça. C'est la première fois. Alors, c'est peut-être dû aussi à la présidente croate qui enlaçait les joueurs. C'est la première fois qu'un président de la République enlace comme ça les joueurs qui ont gagné et qu'il ne leur serre pas la main. C'est la première fois qu'il y a une telle proximité en fait entre un président et des joueurs de foot qui viennent de gagner une Coupe du Monde. Et les joueurs ont joué le jeu aussi. C'est-à-dire que les joueurs ont joué le jeu, mais parce que je pense que ils sont plus jeunes que les anciennes générations, donc ils sont aussi plus. C'est trop cool d'aller à l'Elysée, c'est trop cool de. Et Benjamin Mendy, il a posté une photo sur Instagram où il est dans le fauteuil du bureau de Macron, en costard, avec la Coupe du Monde posée à côté de lui sur le bureau. et comme s'il réfléchissait et qu'il était président de la France. Je veux dire, ils sont en plein délire de toute façon, les joueurs. Mais Macron, il s'est parfaitement positionné au milieu de ça, et surtout, comparé à d'autres politiques, il ne s'est pas placé au-dessus des joueurs ou du groupe, il s'est placé dans les joueurs, comme s'il faisait partie de l'équipe, comme s'il faisait pas. Si, je pense que s'il avait pu, il serait allé sur la photo où il soulève la coupe au milieu du stade, hein, lui, hein, tellement il a envie de faire partie. Ça, je pense que ça vient aussi de son âge. Il est plus jeune, donc il a moins d'écart avec les joueurs que quand c'était Chirac. Et puis, je pense qu'il aime vraiment le foot. Ça, j'en suis pas sûr à 200%, mais je pense qu'il aime vraiment le foot parce qu'il connaît quand même mieux les joueurs. On se souvient des images de Chirac au Stade de France pour la finale de la Coupe du Monde, qui se trompe sur un nom sur deux quand le speaker lance les prénoms. Donc oui, c'est un placement de produit certain de sa part. Après, il y a d'autres marques qui l'ont fait très très bien, comme Nike, comme Beats, comme Apple, qui se sont super bien placés aussi tout au long de la Coupe du Monde, partout dans les stories des joueurs et dans l'image qui était véhiculée sur les réseaux sociaux.
Alors, nous, on ne vous promet pas des dabs et des placements de produits dingues, mais pour conclure ce podcast, je ne peux pas m'empêcher de vous glisser, de nous suivre sur Instagram, @supernatif avec un S, et on va conclure ce premier Super Daily. Moi, j'ai bien kiffé, j'ai hâte qu'on soit demain à John Castandy.
Bah moi j'ai grave kiffé aussi, et puis vu qu'on était sur le thème de la Coupe du Monde, si vous venez nous suivre sur Instagram, en ce moment il y a une super story avec les 4 maillots des 4 grandes victoires de la France en tournoi majeur, Euro ou Coupe du Monde, donc déjà rien que pour ça, moi j'irai m'abonner.
Allez, on vous dit, souhaite une très bonne journée, et on vous dit à demain.
À demain, ciao.